Bon mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, toujours une heure, en fait, qu'on passe ensemble pour parler du 9e art, parler de la bande dessinée. Et ce mois-ci, évidemment, un peu comme la semaine dernière, en fait, cette semaine, on va être un peu sous le spectre du 36e Festival Québec BD qui débute cette semaine, en fait, mercredi de cette semaine. Donc, ça commence à la fois dans l'espace Salon du Livre, à la fois dans les différentes rencontres à laquelle on sera convié. Et notamment, on va commencer l'émission en regardant vers, justement, la grande rencontre qui ouvrira les activités de soirée. Donc, le rendez-vous de la BD qui est consacré à Émile Bravo. Émile Bravo, l'un des invités internationaux du festival. Alors, avec Michel Giguère, on va faire un petit survol, en fait, je pense, de la carrière et du pourquoi Bravo est quand même marquant, de son importance, de son impact, de ses choix artistiques et créatifs. Bref, on va faire un petit survol de tout ça. En deuxième moitié, on va sortir du Festival Québec BD avec Stéphane Gravel, qui va nous amener plutôt dans son mois en BD. Alors, on verra quel titre il a choisi pour nous. Toujours des titres assez variés, il va s'en dire. Et je fais la parenthèse, en fait, puisqu'on parlait du Festival Québec BD, on aura peut-être l'occasion de se croiser également à l'occasion de cet événement si vous passez sur Québec. J'aurai le plaisir, comme les autres années d'ailleurs, d'offrir, de participer à différents événements, manifestations, projets et autres éléments. Alors, notamment, si vous êtes de passage à la Maison de la littérature jeudi soir pour une rencontre entre Héloïse Marseille et Jean-Louis Tripp autour de ces BD autobiographiques qui s'intéressent à la sexualité, à sa sexualité, donc des mises à nu sensibles, sincères, on ira à la rencontre ensemble de ces auteurs-autrices. Le vendredi soir, du côté du Musée de la Civilisation, j'aurai le plaisir évidemment d'assister au prix BD Scosa, la remise qui est à 19h, mais également par la suite d'officier à une joute d'impro BD, une joute qu'on travaillera conjointement avec le public présent. Donc, l'idée de construire ensemble une bande dessinée, un récit long sur environ 1h30 d'improvisation. Donc ça, c'est juste après la remise des bédistes Causa, donc au Musée de la Civilisation. Sinon, on aura l'occasion de se croiser samedi en après-midi à la Maison de la Littérature. J'aurai le plaisir de discuter avec Stéphane Lemardelé et Caroline Lavergne autour justement de cette jonction qu'on peut faire entre cinéma et bande dessinée, puisqu'ils nous ont offert dans la dernière année des titres qui nous ouvrent les coulisses du cinéma, de la création cinématographique, mais à travers le médium de la bande dessinée. Alors, ça sera assurément fort intéressant. Et enfin, dimanche, si vous allez du côté de l'espace Salon du Livre du Festival Québec BD, j'aurai le plaisir à partir de 12h30 d'offrir une série de rencontres d'auteurs, environ une demi-heure pièce avec différents auteurs et autrices du Québec et d'ailleurs. Alors voilà, donc une série de rendez-vous si jamais vous cherchez d'autres raisons d'aller faire un tour à cet excellent festival. Alors peut-être nous y croiserons-nous. Alors, je ferme cette petite parenthèse autopromotionnelle et on se lance vers la suite de l'émission ici à La Vie en BD. Comme à chaque année, le coup de départ du Festival Québec BD va être donné en quelque sorte par le rendez-vous de la BD du mercredi soir. Et comme à l'habitude, en fait, le concepteur et animateur des rendez-vous de la BD, Michel Giguère, est de passage à La Vie en BD pour nous en glisser un mot. Bonsoir Michel.
Bonsoir Raymond.
Alors, je dirais que c'est une tradition qui se poursuit depuis 2006 d'ailleurs. En fait, à chaque mois d'avril, on profite de la présence d'auteurs, d'autrices étrangers, étrangères à Québec. Et tu reçois un de ces invités au rendez-vous de la BD. C'est une opportunité qui est rendue possible par la collaboration entre le Festival Québec BD, le Consulat général de France, la Bibliothèque de Québec et la Maison de la littérature. Évidemment, la première question à te lancer, c'est qui sera ton invité demain soir?
Ah oui, effectivement. Écoute, d'habitude, le directeur de Québec BD, Thomas-Louis Côté, me soumet la liste des invités européens, européennes, et puis je lui fais part de mes premiers, deuxièmes, troisièmes choix selon leur disponibilité. Et cette année, d'entrée de jeu, il m'a fourni un seul nom et je ne lui en ai pas demandé d'autres. J'ai dit oui tout de suite. Inutile de préciser que c'est vraiment avec grand plaisir que je vais accueillir Émile Bravo.
Et je prends pour acquis, Michel, évidemment, pour les habitués du rendez-vous de la BD, ils savent, tu es préparé, tu sais de quoi tu vas parler, tu sais où tu veux amener ton invité, quelle planche tu as envie de lui faire explorer, quelle pente son parcours aussi. Alors, je suis certain que ton diaporama est déjà prêt. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu du scénario de l'entretien?
Oui, ben, le diaporama va être organisé en quatre sections. Ben, il est déjà organisé en quatre sections. La première va être consacrée à sa série Alexis Stroganov, par laquelle je l'ai connu, moi, à l'époque. Ça a été lancé en 93 avec Jean Regnault au scénario. L'action se déroule juste après la révolution bolchevique. C'est un peu étrange de s'y pencher aujourd'hui, en 2023, 30 ans plus tard, alors que la guerre fait rage depuis un an entre la Russie puis l'Ukraine.
Donc, déjà dans les années 90, en fait, on peut dire qu'Émile Bravo s'inscrivait dans la grande tradition de la bande dessinée franco-belge.
Oui, absolument. Mais en dépit des apparences, c'est davantage sur le plan de la forme que du ton. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense avoir affaire à la grande aventure classique, là, sauf que si on se donne la peine de lire, on se rend vite compte que le récit souligne l'absurdité des situations. Le héros n'a pas tellement d'emprise sur le cours des événements, alors ça tranche un peu. Mais en ce qui concerne la forme, là, oui, c'est classique à souhait. Absolue clarté visuelle et narrative. Une mise en page sur quatre bandes, ce qui génère des planches avec beaucoup de cases et des cases de taille assez modeste, évidemment. Sauf quand il nous balance à l'occasion une grande case panoramique en plan éloigné. Et ces images-là sont toujours magnifiques et d'autant plus percutantes qu'il n'en abuse pas, un peu à la manière d'un Hergé.
Et comment on qualifierait son dessin par rapport justement à la tradition franco-belge?
Ben, surtout dans le premier album d'Alexis Stroganov, c'est assez évident, c'est la ligne claire, le trait est rond, net, charnu. J'aime toujours prendre le risque, moi, des associations quand j'ai un invité, là, à propos de leurs influences, de leurs références. Et demain, je vais me lancer encore une fois, je vis dangereusement. Et donc, je trouve que surtout par rapport au premier tome de la série Alexis Stroganov, il y a une influence que moi, je trouve visible d'Yves Chaland.
Et toujours, en fait, pour faire la chronologie, à partir de 92, Émile Bravo, je crois, il travaille en atelier, en studio avec Louis Trondheim, avec Johan Sfar, avec Tarin, avec David B. L'invité des rendez-vous de la BD en 2005, Christophe Blain. Plus tard, vont joindre aussi Marjane Satrapi, Frédéric Boilet, que tu avais reçu deux fois au rendez-vous de la BD en 2013, si je ne m'abuse également.
Oui, je vais lui demander, c'est sûr, de nous parler de cette expérience-là. C'est quand même impressionnant comme voisin de table à dessin. J'ai bien hâte de l'entendre et puis en fait, j'ai hâte de connaître toutes ses réponses parce que dans mon processus de préparation, je lis jamais d'autres entrevues accordées par un auteur, une autrice. Je me présente, pour ainsi dire, vierge devant elle, devant eux, et je pose ce que j'appelle des vraies questions, en ce sens où je ne connais pas la réponse avant qu'il la prononce.
Et je nous garde dans la chronologie, Michel Giguère, toujours chez Dargaud, Émile Bravo avait lancé par la suite, en 1999, une série qu'il avait créée en solo, Une épatante aventure de Jules.
Voilà, ça le fait connaître un peu plus du grand public. Et ce sera le second segment de l'entretien. Jules, c'est un ado qui a le cœur sur la main et puis autour de lui gravite, c'est le cas de le dire, gravite puisque la plupart des tomes relèvent de la science-fiction. Donc, il y a sa famille, son cochon d'Inde Bidule, qui est son animal de compagnie. Il y a la jeune Britannique Janet, qui va devenir sa blonde. Il y a des scientifiques et il y a même des extraterrestres.
Et avec la série Jules, on peut dire que le style Émile Bravo, entre guillemets, se définit, se précise.
Oui, et d'ailleurs, plus précisément, le tome 2, qui s'intitule La réplique inattendue, lui a valu en 2001 le prix René Goscinny pour le scénario. Et justement, cet album-là, à mon sens, constitue un tournant, un jalon décisif de son œuvre. Il va installer, et définitivement, des caractéristiques qui vont demeurer dans ses BD ultérieures et dans tous les aspects, toutes les dimensions de ses bandes dessinées. Pour ce qui est du dessin, par exemple, son trait, je le disais tantôt, était d'abord rond et charnu, et là, il est devenu, je dirais, granuleux, graveleux. Sur le plan des couleurs, qui sont de plus en plus sobres, sur le plan de la mise en scène, entre autres, son refus de recourir aux effets tape à l'œil, et aussi au niveau de la mise en page, ça, je l'ai évoqué tantôt, mais également sur le plan scénaristique. En effet, dans la première moitié de l'album, Le rythme est lent, les péripéties se raréfient, le récit s'attarde aux dialogues et aux petits riens du quotidien, toutes choses qui vont dès lors caractériser sa narration.
Et on pourrait dire que même dans son parti pris pour la sobriété, Bravo utilise assez peu des plans rapprochés. Je veux dire, le lecteur est généralement tenu à une certaine distance. Évidemment, ça donne une belle clarté pour la mise en scène, mais c'est aussi, et là on se reporte à l'époque, dans le fond, c'est en rupture avec ce qui se faisait ou avec une partie de ce qui se faisait en production BD. Et donc, c'est un peu, j'imagine, si on extrapole, à se demander à qui il s'adressait. Est-ce qu'il parlait aux enfants des années 2000 ou aux nostalgiques de Tintin?
Oui, d'ailleurs, j'ai hâte de lui demander si un album comme Les Bijoux, le Castafiore l'a influencé, parce que c'était assez révolutionnaire à l'époque, parce que Tintin, ça allait de péripétie en péripétie, alors que dans Les Bijoux, le Castafiore, on est dans Moulinsart, on ne sort pas beaucoup du manoir, et il y a plein d'imbroglio, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et je trouve que ça se rapproche assez de la tangente que prit Bravo sur le plan de ses scénarios. Et puis, on peut se demander, effectivement, est-ce qu'il s'adresse vraiment aux jeunes tant que ça? J'ai hâte de lui demander, dans son esprit, quel âge, à peu près, avait le public cible de Jules. Mais je suis pas mal sûr qu'il va me répondre. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence d'un jeune lectorat, ni son ouverture d'esprit, sa curiosité pour un style de BD profondément différent de ce qui était en vogue et de ce qui est toujours en vogue depuis les années 90, entre Naruto, Kid Paddle et l'agent Jean. Là, disons que c'est beaucoup d'action, beaucoup de trucs visuellement spectaculaires, ce qui n'est pas le cas du tout chez Émile Bravo. Entre autres, chaque titre tourne autour d'une thématique dans la série Jules, ou même carrément d'une discipline scientifique. Bon, par exemple, dans la question du père, il est question de génétique, mais aussi de religion. Et c'est pas banal, c'est même audacieux de proposer ça à des ados des années 2000. Et puis, tu as raison quant à sa mise en page et sa mise en scène, qui sont simples et sobres, entièrement au service de la scène, au service de la fine compréhension, de la pleine appréciation de la scène.
Et là, on a placé donc la deuxième partie de l'entretien que tu vas avoir mercredi avec Émile Bravo. Sur quoi va porter la troisième partie de la rencontre?
Eh bien, sur tout le reste, qui se destine à un public, encore là, assez jeune. Il a illustré un certain nombre de romans jeunesse, donc là, on ne parle pas de BD, dont, entre autres, la collection Le Club des Babysitters. Et si on revient à la BD, toujours dans le public cible des enfants, il y a sa série des ours nains qui revisite de façon assez savoureuse, qui détourne les contes classiques de manière un peu, je dirais, subversive, ce qui rend la lecture tout aussi amusante pour les adultes que pour leurs enfants. Et à nouveau, en duo avec Regnault, il a dessiné une BD jeunesse sur l'enfance du scénariste, une enfance qui était marquée par le fait qu'il était orphelin de mère. Ça s'appelle « Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill ». C'est un album qui a été adapté en dessin animé et qui a connu quand même un beau succès.
Et en regard de tout ça, je pense que c'est clair, quant au sujet de la dernière portion de la rencontre, oui. J'imagine que ça va tourner autour de son grand succès critique et public, son Spirou.
Oui, effectivement. Quand sort Journal d'un ingénu, le premier album de Spirou d'Émile Bravo, en 2008, il y a eu, au cours des deux années précédentes, trois albums qui s'inscrivait dans cette initiative des éditions Dupuis de donner carte blanche à des BDistes confirmés pour s'approprier leur emblème, le personnage iconique de Spirou, et pour réinterpréter son univers à leur façon. Lui, comme les autres avant et après, essaye aucunement donc d'imiter Franquin ou Tom et Jean-Ry, il fait du Émile Bravo. L'idée de ce genre de série parallèle, c'est qu'il est moins question de reprise que de version. C'est la version de Bravo. Les éditions Dupuis ont ensuite réitéré l'expérience avec Luc et Luc. Ça, j'en parlerai dimanche en compagnie d'HD.
Oui, et d'ailleurs, on lui en parlait la semaine, jeudi dernier, en fait, à HD. Lui, il faut dire qu'il a succédé à Maurice sur la série régulière de Lucky Luke, donc qui impliquait un respect du style, des codes de la série, ce qui n'était pas le cas d'Émile Bravo, qui se retrouvait dans un vu-part ou dans une interprétation.
Oui, et ce n'est pas le cas non plus, par exemple, de Mathieu Bonhomme et de Bouzard, qui, eux, reprennent Lucky Luke, mais qui emmènent le héros et son univers, et le lectorat avec tout ça, complètement ailleurs. En ce qui a trait au ton, dans un cas, c'est plus dramatique, dans l'autre, c'est un humour plus absurde. Et quant à l'esthétique aussi, dans un cas qui est plus réaliste et dans l'autre, plus caricatural même que Maurice ou HD. Émile Bravo, lui, avec la sobriété qui reste la sienne, choisit de situer l'action de son Spirou, et ça, moi j'apprécie ça beaucoup, il situe à l'époque de la création du personnage, ce que tout le monde a oublié à peu près, par le français Robbe-Veld en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation de la Belgique par l'armée allemande. En fait, Bravo retourne aux sources du personnage et du coup, il justifie son costume par le fait que le jeune Spirou, ben, c'est sa job. Il a un poste de groom, de garçon d'hôtel, d'ascenseur dans l'hôtel Moustique.
Et du coup, d'ailleurs, Bravo permet à des générations de bénéphiles qui n'ont pas lu Robbe-Veld, c'est-à-dire quand même beaucoup de gens qui n'ont pas eu
Ah oui.
accès à cette production-là, mais de faire connaissance avec, j'ai l'impression, l'esprit du Spirou initial, de renouer avec les origines de Spirou.
Oui, c'est vrai. Puis en plus, il initie plein de jeunes lectrices et lecteurs, j'en suis sûr, au contexte historique. Je pense que pour plein de ces jeunes lectrices et lecteurs-là, c'est la première fois peut-être qu'ils entendent parler de la Deuxième Guerre mondiale, surtout avec cette tétralogie L'espoir malgré tout, là, ces derniers albums. Bruxelles a été occupée par les Allemands de 1940 à 1944. C'est long. Et Bravo montre différents visages de l'occupation. La morosité, la disette, les bombardements, la méfiance qui s'installe, la dissimulation, la résistance ou la collaboration avec l'occupant, la peur de la délation et ensuite la déportation. Tout ça est abordé. Il épargne rien à son jeune lectorat, là. Et cette tétralogie, nous plonge dans les sombres réalités de cette époque-là, mais tout en maintenant la petite flamme vacillante de l'espoir et, comme le titre le dit, malgré tout. Et je trouve que plus les événements sont dramatiques dans son Spirou, plus son parti pris de la sobriété fait merveille. Sobriété du ton, de la représentation, des couleurs qui sont en dominante, brun et gris. Alors, il y a dans son Spirou, je trouve encore plus que dans son Jules, un je ne sais quoi de délicatement suranné que moi j'apprécie à l'âge que j'ai, avec le bagage culturel qui est le mien. Mais j'ai hâte de lui demander s'il a reçu des échos de ses jeunes lectrices, lecteurs, par rapport au caractère distinctif de son œuvre, qui est en rupture, comme on disait, avec le clinquant de notre époque, avec les fictions en images qui sont frénétiques, rapides, tapageuses et spectaculaires.
Donc, le rendez-vous de la BD avec Émile Bravo, c'est donc mercredi à 19h exact. Il faut être à l'heure, évidemment. C'est en salle dans un monde idéal. C'est en ligne, au pire, sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Évidemment, on le mentionne, les enregistrements sont toujours là d'ailleurs si vous voulez aller visionner tout ça en rattrapage. Et Michel, en fait, j'ai l'impression qu'on va se croiser, ou du moins que nos animations s'entrecroisent au fil du Festival de la bande dessinée, entre autres. On se partage la série que le programmateur du festival, Thomas Louis Côté, a appelée Les grands entretiens, qui font suite un peu au rendez-vous de la BD. Donc, entre jeudi et dimanche, il y a une série de quatre grandes rencontres. Toi, tu es en charge de deux d'entre elles.
Oui, premièrement, samedi, 15h30, sur la masculinité avec tandem Marc Maurer et Alain Chevarier, auteur de Géant au pied d'argile chez Moelle Graphique. Et aussi, là, on sort un peu de la bande dessinée, l'essayiste, journaliste Michaël Bergeron, qui vient de sortir Cocorico, les gars, faut qu'on se parle. Et puis, en deuxième lieu, il y aura dimanche à 11h, revisiter les classiques avec le même Émile Bravo. Je vais pouvoir poursuivre parce qu'il y a tellement de stock. Je suis content de pouvoir étaler ça sur deux rencontres. Et se joindra à Émile Bravo, HD, dessinateur de Lucky Luke.
Et donc, ça va être intéressant de voir un peu qu'est-ce qui va sortir de ces différentes rencontres-là. Et tu le disais, dans le fond, j'imagine qu'avec HD et Émile Bravo, ben, tu vas pouvoir creuser vraiment plus en profondeur la notion de reprise, par exemple, d'album.
Oui, c'est sûr que, disons que je me suis dit, OK, là, je bénéficie de deux activités. Alors, il y a ce que je conserve pour la deuxième rencontre et qui est vraiment sur le thème des classiques revisités. C'est beaucoup toutes les questions dont on a parlé, toi puis moi, depuis tantôt, là, des influences, des références, de certains choix de ton. Fait que c'est assez particulier parce que là, je ne serai pas qu'avec Bravo. Il va y avoir HD et tout l'univers de Lucky Luke aussi. Fait que je vais faire des clins d'œil d'ailleurs en introduction pour bien rappeler que le créateur de Lucky Luke et les deux repreneurs, les deux premiers repreneurs après Rob Vell du personnage de Spirou, qui ont été Jigé et Franquin, eh bien, c'était des potes, c'était des copains, des voisins, ils travaillaient ensemble dans le même atelier. Alors, c'est comme si HD et Bravo font partie de cette espèce de grande famille-là autour des éditions du Puits et du journal Spirou.
Alors, des beaux sujets, des belles explorations auxquelles on invite un peu tout le monde à faire pendant le Festival Québec BD, en parallèle donc du Salon du livre de Québec. Donc, des opportunités de creuser la bande dessinée comme on aime. Et de l'ensemble des rencontres dont on vient de parler, ça se passe à la Maison de la littérature, donc dans le cadre du festival. On vous incite à aller sur québecbd.com pour réserver vos places, être certain d'avoir vos sièges. Et je rappelle que cette série-là, les trois rendez-vous que t'animes, Michel, et les deux que j'animerai dans le cadre de ces grandes rencontres, sont le fruit de la collaboration entre le Festival Québec BD, le Consulat général de France, la Bibliothèque de Québec et la Maison de la littérature. Alors, Michel, on se souhaite un bon festival et on va assurément se croiser à un moment ou à un autre.
À tout bientôt, puis j'espère qu'on va croiser le public aussi.
Assurément. Alors, on poursuit toujours ici à La Vie en BD et il y a des visites qu'on retrouve de façon mensuelle, et entre autres celle de Stéphane Gravel. Stéphane, salut.
Allô, allô. Des fois des longs mois, des fois des mois plus courts.
Exact, on ajuste les temporalités. Je fais une parenthèse absolument non reliée, en fait. On se jasait autour du 50e anniversaire de CKRL 89.1 qui était cette année. Tu me disais, tu fais des chroniques BD à la station depuis 1988 à peu près.
Exactement, oui. Ça a commencé au début. Je faisais des chroniques BD dans une émission de cinéma où on faisait un parallèle entre bande dessinée et cinéma. C'était avec Gabriel Rochette que je faisais cette émission-là. J'étais invité. Ensuite, il y avait les gens de chez le disquaire chez Sion qui avaient une émission qui parlait de jazz. Et à l'époque, il y avait beaucoup de BD qui avaient des... une espèce de petit lien avec le jazz. Il y avait même certaines BD qui étaient parues avec un disque, Barney, la note bleue et ces choses-là. Donc, j'avais commencé à faire aussi des petits commentaires BD jazz pour ensuite faire une émission spécialisée sur la bande dessinée qui s'appelait Pédérapage. C'était une émission où il y avait beaucoup de critiques BD aussi, puis aussi de montage. On faisait des montages à partir de des extraits de films, de BD ou de vieux disques, des aventures de Blake et Mortimer ou Tintin. Tout ça. Des émissions vintage.
Oui, puis après ça, en fait, on s'est croisés aussi en cours de parcours. Mais ça veut dire que sur 35 ans, dans le fond, de critiques et commentaires BD, c'est-à-dire que tu as quand même vu aussi beaucoup l'écosystème se transformer, évoluer. Je veux dire, parce que quand tu as commencé en 90, la BD québécoise était franchement moins présente. Il y a eu l'éclosion de ça à laquelle tu as assisté comme chroniqueur. Il y a eu aussi, j'imagine, la BD européenne qui était de plus en plus accessible au Québec. Donc, j'imagine que l'écosystème s'est quand même pas mal transformé en 35 ans, dans le fond.
Écoute, c'est la bande dessinée étant, je trouve, est encore très marginal. D'être un lecteur de BD, c'était encore perçu comme quelqu'un qui ne savait pas lire, entre guillemets. Là. Ça n'a pas duré longtemps parce que la BD elle a évolué quand même assez vite. Mais au niveau de ce qui se faisait au Québec, c'était pas énorme. Là. On enviait beaucoup l'Europe et on essayait beaucoup de se faire éditer en Europe. Mais même là, le marché commençait à être surchargé. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de parutions BD. Les journaux étaient des journaux un petit peu parallèles, comme comme à suivre, par exemple, où on avait un peu l'âge d'or, je trouve, de la BD pour européenne pour adultes, mais tout ça s'est écoulé quand même. Mais s'est écoulé très, très vite. Et où là, il y a eu une prise de marché, un, du manga, deux, de la BD, entre guillemets, roman graphique issu d'une certaine mode américaine. Et c'est dans ça, je trouve, que la bande dessinée faite au Québec a pris un peu d'énergie, là. C'est dans cette BD, entre guillemets, non traditionnelle des grandes éditions européennes, où les choses un petit peu plus marginales, différentes, réfléchies, plus près de la littérature, ont permis à la bande dessinée québécoise d'éclore. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qui se fait chez nous, là. Je pense qu'autant on a envié longtemps ce qui se faisait ailleurs, autant maintenant, je pense qu'on n'a plus envier personne. On parle souvent de Paul et de Michel Rabagliati, et je pense qu'il est un peu aussi pour quelque chose. Il a quand même ouvert les yeux du grand public à la BD québécoise. Puis à partir de là aussi, je pense que les lecteurs ont été un petit peu plus enclins à lire un peu n'importe quoi, puis arrêter de penser aussi que la BD, ben, c'est juste des petits bonhommes, là. C'est juste du Spirou.
L'a priori jeunesse, en fait, l'idée que Exactement. C'est de la petite lecture, c'est de la lecture moindre que de la littérature, et que c'est pour un public jeune, dans le fond. Paul, effectivement, je pense que en termes de succès grand public, en termes de rejoindre un peu, de raconter la réalité des Québécois de différentes époques, donc a ouvert un peu ce marché-là, ou a ouvert cette compréhension-là, la bande dessinée, et ce qui a amené, dans le fond, après ça, effectivement, à la suite, plusieurs BD. Autant on peut dire aussi que la Jean-Jean a réactualisé, il y a 10-15 ans, la bande dessinée jeunesse. Il y a eu des j'ai l'impression, des séries comme ça, des séries charnières, ou des éditeurs charnières, comme La Pastèque aussi, qui ont vraiment défriché un peu ce territoire-là au tournant des années 2000, à un moment où, peut-être économiquement aussi, le Québécois était plus là, était prêt à investir dans des séries, il avait une capacité à soutenir, dans une certaine mesure, des structures éditoriales qui étaient dédiées à la bande dessinée, ce qui était complètement impensable avant aussi. Et peut-être, en fait, qu'il y a une réflexion à faire éventuellement sur l'évolution, justement, des structures éditoriales, puis qu'est-ce qui a permis au Québec de se faire sa place dans l'écosystème qui était quand même très chargé par l'Europe aussi à l'époque.
C'est ça qui... La bande dessinée classique, Astérix, Tintin, Lucky Luke et compagnie ont pris beaucoup de place longtemps. C'était les BD que les parents achetaient à leurs enfants. C'était des BD où à chaque année, un titre va paraître, puis ils vont s'organiser pour qu'il paraisse.
Même en fait, c'était la BD.
C'était la BD, oui, absolument, tu as raison. Ce n'était que ça. Maintenant, il y avait quand même des gens qui faisaient des trucs. Au Québec, mais il n'y avait pas la chance d'être vu, pas la chance d'être diffusé. Le problème était là, parce que même dans les années 80, il y avait un effort avec les magazines plus humoristiques, comme Crow, par exemple, à vouloir percer la BD et vouloir qu'on ait notre propre BD. Mais moi, je me suis battu beaucoup pour que la bande dessinée soit quelque chose qui... qu'on sache qu'on peut lire, qui est bon autant pour des lecteurs que pour des non-lecteurs, que c'est pas la petite littérature cachée qu'on essaie de lire ou qu'on veut lire quand on sait pas lire. Et puis, au niveau de la BD québécoise, je trouve que l'erreur qui a peut-être, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose qui est peut-être normal, mais c'est que à vouloir se distinguer et à vouloir faire une bande dessinée québécoise et purement québécoise, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que c'était trop de vouloir faire comme, mais à la sauce de, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'est comme ça que les auteurs au Québec se sont peut-être un peu tirés dans le pied. On boudait un peu l'idée qu'on soit édité en Europe pour revenir ici parce qu'on perdait un peu d'identité. Mais c'est normal, là. En 1980, 1990, on n'est pas loin des crises d'octobre encore, là. On parle de dizaines deux dizaines d'années à peine, là. Donc, cette identité-là et cette idée-là de vouloir être purement québécois était extrêmement fort, mais en même temps, on réduisait le lectorat à chez nous. Et si la bande dessinée était déjà un lectorat qui était réduit parce que c'était boudé, parce que c'était une paralittérature, ben, il ne reste plus beaucoup de place pour les auteurs de BD.
Effectivement. Que... Là, aujourd'hui, heureusement, mais dans le fond, il y a une possibilité d'émerger, puis il y a aussi une opportunité de redécouvrir. En fait, on parlait des fanzines, des périodes de publication indépendante. Ben, ça reste toujours un défi de redécouvrir un peu ce qui se faisait dans les années 80, dans les années début 90, dans les scènes plus underground, plus souterraines aussi, mais ça se fait. Il y a des auteurs aussi qui sont toujours actifs de cette période-là, des Grégoire Bouchard, des Julie Doucet, des Richard Suicide, des Cyristes.
Jean-Paul Hède était là à l'époque. Oui. C'est ça, c'est des gens qui étaient là, mais qui attendaient juste que le... À fin de compte, ils attendaient juste que la porte s'ouvre pour pouvoir, pour pouvoir sortir. Ils ont sorti du placard. Ce n'était que des auteurs de BD. Puis, je me souviens à l'époque d'une couverture d'un album de Dupuis Berberian où tu voyais les deux auteurs qui étaient un peu en extraterrestre avec, puis qui répondent à quelqu'un qui est devant eux, puis il dit « Nous sommes auteurs de BD ». Longtemps, l'auteur de BD a été perçu comme justement un extraterrestre. Qu'est-ce que ça fait? Vous dessinez tout ça à la main. En dehors de Franquin, et en dehors de Gottlieb, Uderzo, Goscinny, Maurice, oh bon, là, ça a commencé à s'effriter pas mal. Là.
Exact. Ça reste quand même un médium qui est relativement jeune, même si on va chercher des racines, j'ai affaire au 19e siècle, entre autres. Ça reste que le médium BD tel qu'on le connaît, bien, c'est structuré dans le dernier siècle, au final.
Oui, je ne sais pas si... La BD est un peu... La petite cousine du cinéma, là. Ils sont nés à peu près en même temps, on grandit à peu près avec les mêmes ambitions de vouloir raconter des histoires, de se servir de l'image. D'ailleurs, le cinéma, au début, avec la lanterne magique, était beaucoup près de la bande dessinée qu'elle était près du cinéma. Mais à quelque part, la BD a grandi un peu dans l'ombre, justement, de son grand cousin, cinématographe, qui lui a réussi à prendre les salles, à prendre les gens, à émouvoir, à avoir des personnages aussi plus grands que nature qui devenaient les idoles des garçons et des filles de toute une époque. Et le cinéma a pris toute la place je trouve, que la bande dessinée pouvait prendre, ce qui fait que la bande dessinée restait toujours un petit peu à l'écart. Ensuite, Disney a repris cet univers-là, a repris cette idée-là de la force du dessin, de la force du récit raconté en images, et a fait le dessin animé qui, lui aussi, a été extrêmement fort par rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, à l'époque, a été souvent aussi des dessins animés qui étaient repris en bande dessinée. On voyait ça souvent. Et même qu'on confondait les deux noms. On confondait bande dessinée et dessin animé. Les gens ne faisaient pas la distinction entre les deux. Donc, puis pourtant, ces deux trucs qui sont tellement, c'est tellement lointain. Puis on le voit aujourd'hui. C'est quand la BD a pris son âge de maturité avec les récits plus longs, avec les récits plus intellectuels, plus réfléchis, plus écrits. Je pense qu'elle a vraiment réussi à prendre sa place. Puis, donc, c'est tout jeune, oui, tu as raison. Hein, elle est restée petite longtemps et là, elle grandit depuis 30 ans peut-être, 40 ans.
Et je ferme cette parenthèse-là, en fait, mais je te l'ai signé parce que j'ai trouvé ça, en fait, on dirait que j'avais conscience que tu en parlais depuis longtemps, mais quand même, 35 ans de chronique, c'est pas rien. Évidemment, on est toujours content de profiter de tes passages mensuels ici à La Vie en BD. Ce mois-ci, comme pour les autres, enfin, on va se concentrer sur... 4 albums là, qu'on va explorer au fil des 20 prochaines minutes environ. Encore là, mois après mois, je trouve que ça témoigne bien aussi de la richesse et de la variété du contenu qu'on peut trouver, qu'on peut gratter chez une multitude d'éditeurs. Tu te concentres plus du côté européen, mais aussi qu'on pourrait faire le même exercice au Québec en parallèle qu'on fait déjà avec la balance de l'émission. Dans le fond, on parlait de cinéma tantôt, alors il y a quand même un pont. Marilyn, dernière séance de Michel Schneider, donc chez Futuropolis.
Il y en a, je pense qu'il y a des ponts partout.
Oui, effectivement.
Bon, écoute, ça c'est une BD, justement, je pense que c'est normal à un moment donné que les chemins BD et cinéma se croisent à un moment donné. Et puis cette BD-là, justement, on le voit, je fais une parenthèse, là, on le voit aussi chez Glénat, je crois, qu'ils font une série de BD sur les grands cinéastes ou les grandes personnes qui ont marqué le cinéma. Là.
Il y a toujours quelque chose, en fait, où on dirait, ben, tu le disais tantôt, en fait, la réflexion de l'image, racontée en image, donc ça... Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une facilité peut-être de montrer, de comprendre, de réfléchir dans un langage qui est quand même similaire. On parle de mise en scène, on parle de mise en image, on parle de cinématographie de la BD presque.
Écoute, on va avoir de la misère à parler de nos albums si on continue comme ça, mais c'est clair que la bande dessinée et le cinéma, pour moi, par exemple, je suis obligé de reculer encore une fois dans mes débuts, dans mes premières chroniques où j'étais avec Gabriel Rochette, puis qu'on parlait du cinéma. Il y avait soit la BD qui influençait le cinéma, là on parle des Batman et compagnie, qui étaient avant tout des comic books, qui sont devenus des films, mais en même temps, les gens faisaient des critiques de bande dessinée où on parlait beaucoup, qu'on disait « cette bande dessinée-là est cinématographique », et on sentait beaucoup le langage du cinéma dans la bande dessinée. Et ça me fatiguait énormément parce que le cinéma, c'est une image, c'est un paquet, oui, ça reste un paquet d'images fixes avec lesquelles on va croire au mouvement à cause de la persistance rétinienne et compagnie, là, mais ça reste un paquet d'images fixes dans une séquence extrêmement accélérée de 24 images secondes qui vont créer un mouvement. Mais le lecteur et le spectateur dans ce cas-là est assis et pris en otage par le film. C'est-à-dire que, bon, je suis obligé de reculer encore, là. Moi, j'écoutais pas, parce que c'était des VHS qu'on avait dans nos maisons, puis on n'écoutait pas des films à la télé, là, dans un écran qui était presque carré, puis qui donnait pas l'illusion cinématographique. Pour aller voir un film, il fallait aller au cinéma. Pour aller au cinéma, tu paies ton billet pour aller au cinéma, tu t'assois dans une salle, et là, t'es captif, t'es dans une salle noire, captif, et tu subis, entre guillemets, le film. Donc, tu ne gères rien. Tu absorbes le film, tu absorbes les sentiments et tu pars avec ça. Tandis qu'en BD, c'est une autre façon de lire. C'est pas une structure linéaire qui t'est imposée. C'est un réseau. Et tu t'amuses à te promener dans ce réseau-là. Puis, je dirais même qu'en même temps que tu peux y entrer, tu peux en sortir aussi. Tu peux le lire différemment. Tu peux revenir en arrière. Tu peux, si tu es tricheur, plonger vers l'avant. Ben, aller voir comment ça va finir. Tu peux sauter une bulle. Tu peux sauter un bout de texte que tu trouves trop long. Donc, il y a comme une idée de casse-tête avec la BD que je trouvais extrêmement intéressant et où, à quelque part, il s'en passe beaucoup plus entre deux cases dans le petit interstice blanc qui est là que dans chacune des images. Parce que toi, tu vas le créer, le mouvement, tu vas le créer, l'action qui s'est passée là. Tout est dans l'ellipse et tout est dans l'absence, mais ce qu'on aime et qu'on apprécie, c'est le dessin et le texte qui, lui, est présent. Et moi, ça m'a toujours fasciné, ce système-là de la bande dessinée, parce que on a comme des moments qui nous sont imposés avec lesquels on va créer les liens. Tandis qu'en littérature, c'est plus loin que ça encore. C'est-à-dire qu'on a des mots et avec ces mots-là, on va se créer l'histoire, on va se créer une image, mais les images sont celles souvent qu'on a dans nos souvenirs. C'est-à-dire que je peux m'imaginer à la limite de ce que je suis capable de m'imaginer. Tandis qu'à la bande dessinée, on va mettre des petits points de repère qui vont te stimuler une imagination qui peut sortir de la tienne. Et c'est ça que je trouvais extrêmement...
Un peu comme avec Marilyn, dans le fond, où c'est une icône, on connaît des éléments, il y a un imaginaire qui est là, qui est rattaché, qui est populaire, mais dans le fond, de nous le ramener par l'image, ça nous ramène peut-être aussi vers l'époque, vers l'esprit du temps, etc.
Ah, mais là, j'ai plus le goût de parler de Marilyn.
On a ouvert des bonnes portes quand même.
Marilyn, ce qui était intéressant dans cette BD-là, c'est qu'avant tout, c'est un livre. Donc là, on tombe dans une... dans l'adaptation d'un roman. Et puis, on en fait une BD. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire un choix des images qu'on va quel auteur, l'autrice s'est imaginé dans la lecture du livre pour la retransmettre, puis pour moi, me recréer l'autre histoire. C'est pas une BD exceptionnelle, mais c'est une BD où je trouve qu'il y a une grande force graphique. C'est-à-dire que l'auteur, elle a essayé de raconter cette histoire-là avec un dessin qui change tranquillement en avançant selon l'humeur de Marilyn. On en a vu beaucoup, là, c'est à mode, Marilyn, ces temps-ci, là. Il y a des séries de Netflix, on dirait que tout sort en même temps. Et la réalité autour de ce personnage-là est quand même assez dure et assez atroce. Et là, cette BD-là, c'est ses dernières rencontres avec son psychologue. Et puis, l'autrice a vraiment réussi quand même, parce que c'est difficile de toucher par une bande dessinée, mais elle a réussi à me toucher. Mais c'est probablement le roman de Michel Schreder que j'ai pas lu, qui est certainement lui aussi très, très fort et qui va jouer dans les sentiments humains et dans la misère humaine et dans comment cette femme-là, Marilyn, a été manipulée, contrôlée et complètement déprogrammée de cette personne humaine, en fin de compte.
Une histoire assez tragique. Mais enfin, c'est pas pour rien non plus, à la fois, dans le fond, par le sex-appeal, elle est rentrée comme icône public, populaire, reconnu mondialement. Je veux dire, on a juste à faire sa silhouette, tout le monde sait c'est qui. Ouais. Mais en même temps, dans le fond, elle a été limitée peut-être un peu aussi à ça. Puis il y a tout le côté plus sombre qu'on connaît, mais qu'on découvre ou qu'on redécouvre dans des objets comme le roman, comme les séries, comme...
Ben, c'est qu'elle accepte... il y a deux personnes. Il y a Norma Jean Baker et il y a Marilyn Monroe. Et puis dans cette BD-là, on sent beaucoup qu'il y a une distinction entre ces... entre ces deux personnages-là. Norma Jean Baker n'a pas une enfance qui est très heureuse. Elle a des problèmes d'attachement, elle a des problèmes psychologiques liés à la relation qu'elle avait avec un père absent et une mère pas facile. Et elle construit le personnage consciemment, le personnage de Marilyn qui, lui, va aller chercher tout l'amour qu'elle n'a jamais réussi à avoir, en fin de compte. Et puis, c'est ces sentiments-là qui vont prendre le dessus, mais le personnage de Marilyn va plus loin qu'est-ce que Norma Jean aurait accepté. Donc, c'est très tourmenté, mais c'est très triste. Le monde a changé, là, et le monde change. On est avec les MeToo et compagnie. On se rend compte comment la femme... La femme n'était pas grand-chose il n'y a pas si longtemps. Là. La femme n'avait pas le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Elle n'avait pas le droit d'aller faire de retrait à la banque il n'y a pas si longtemps. C'est épouvantable. Et c'est par des personnages comme ça qui, en même temps, sont des gens qui ont tenté une forme de révolution de la femme à leur façon, avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire d'exister, mais se sont fait prendre au piège dans un smart system qui était beaucoup trop grand et beaucoup trop fort.
Alors ça, c'est Marilyn, dernière séance, c'est d'après Michel Schneider, c'est une BD de Lousion chez Futuropolis. J'ai l'impression qu'on change un peu de style avec Tsar par accident de Andrew Weiss et Brian Brown chez Rue de Sèvres.
On change de registre complètement au niveau du style graphique, mais en même temps, on prend un personnage et on essaie de raconter son histoire réelle. Et puis... moi, cette BD-là, elle m'a beaucoup amusé. C'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que là, c'est qui ce bonhomme-là? On entend parler beaucoup de Poutine. C'est qui Poutine? D'où vient? Comment il est entré là? Sur le coup, quand j'ai commencé cette bande dessinée-là, je m'attendais à lire une simple BD, mais là, je lis un peu, je vois que l'auteur... est un universitaire qui a été consultant sur la Russie auprès du gouvernement américain, puis qu'il a vraiment travaillé au niveau des hautes instances pour essayer de comprendre la Russie, a été un petit peu dans les suites de la guerre froide et connaît tout le système, entre guillemets, russe. Ça reste un Américain quand même. Et il décide de... nous raconter ce qu'il sait de Poutine et d'où vient Poutine et comment Poutine a réussi à se rendre là. Et bon, où est la vérité? À un moment donné, moi, je me rends compte qu'on a la vérité que celle qu'on veut bien nous faire croire qu'elle est. Mais la façon dont on a réussi à raconter cette histoire-là, puis à mettre Poutine comme étant au point de départ un être humain qui essaie de survivre ou de grandir dans un univers qui est la Russie du temps de la chute du mur de Berlin, là. Du temps où je commençais à faire ma chronique BD. Et puis, c'est comment ce personnage-là, avec les Boris Yeltsin qui viennent un petit peu chambouler la politique, qui lui laissent une place inconsciente, mais pour pouvoir essayer d'équilibrer pour le peuple, à fin de compte, parce que le peuple n'aime pas trop Boris Yeltsin, le vieil alcoolo qui est en train de faire écouler un système. On amène Poutine comme ça, hop, on va essayer d'équilibrer un peu ce que pense le peuple de la Russie. Et là, Poutine, tranquillement, prend sa place, embarque dans le système oligarchique, va faire fortune, va monter, va se placer. Et tout ça avec à la fois stratège et à la fois malgré lui. C'est pour ça que le titre, c'est un tsar par accident, là. C'est que, il va monter jusqu'au pouvoir avec une grande paranoïa et avec un grand mépris envers les États-Unis. En tout cas, c'est l'histoire que Waze nous compte. Et moi, j'ai appris beaucoup là-dedans et j'ai appris beaucoup sur la Russie contemporaine, en fin de compte, la Russie moderne, qu'on connaît peu. Ils ne veulent pas entendre parler de nous, on ne veut pas vraiment entendre parler d'eux. Là, on en entend parler parce qu'il y a une guerre et parce que chacun des intervenants vont voir de faire l'autre le méchant. Mais c'est complexe, là. C'est complexe, la Russie. J'ai trouvé ça très, 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 très bien.
Et j'ai l'impression, en fait, juste en me fiant sur le titre, qu'on reste dans la politique de tsar par accident chez Rutsev, où on va parler de Révolution 2. Donc, c'est chez Actes Sud de Goisel et Lecard. Donc, deux tomes qui sont...
À fin de compte, les deux tomes ne sont pas parus encore. Le tome 1 est paru. C'est que le tome 1 est paru, mais le tome 2 est en deux volumes.
Ah, OK.
Donc, c'est un projet. Puis ça, le Révolution, tome 1, je trouve qu'on est passé un peu à côté de... On est passé un peu à côté de cet album-là, parce que c'est... OK, Révolution française en BD, on est peut-être un peu tanné, là. On dit Révolution française, la revue, les éditions Glénat et Vécu en ont fait leur porte-étendard pendant des années. On nous a bourrés de révolutions et de para-révolutions. C'était de la BD en plus qui se voulait BD adulte parce qu'on allait mettre une ou deux scènes un petit peu plus osées à travers une série de conquêtes de villages et de coupages de tête. Mais là, avec Révolution, ces auteurs-là, on joue à d'autres choses, on s'en va ailleurs, là. Ils veulent rentrer au cœur de la Révolution et on va rentrer au cœur de la Révolution en parlant des gens qui sont dans les rues. Donc, ce n'est pas la Révolution des noms qu'on connaît et des grands révolutionnaires pendant la France. On va aller à la prise de la Bastille par des gens, ils réussissent à raconter cette histoire-là avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de réalisme et un dessin qui peut rappeler la peinture de la période des romantiques, là, comme Delacroix, là. Donc, c'est une BD romantique, à fin de compte. Ça a cette espèce de d'ampleur-là et c'est extrêmement bien raconté, bien écrit.
On réussit un peu à transcender, dans le fond, le côté déjà vu du sujet avec une approche visuelle, une approche narrative qui est forte, finalement.
C'est que j'ai l'impression, en lisant cette BD-là, que je ne fais pas lire, je fais pas seulement que lire un récit, un autre récit sur la Révolution française, mais que j'ai en même temps quelque chose de assez théorique sur la réalité que vivait le peuple pendant la Révolution. Et les historiens en parlent en bien de cette BD-là parce qu'on dit que la recherche a été extraordinaire et que les auteurs ont vraiment entré dans l'univers de la Révolution, mais avec une rigueur pas journalistique, mais avec une rigueur historique. Et puis, c'est ça que je pense qui rend le truc intéressant. C'est pas seulement qu'un roman de cartes et d'épées, là, qui s'amuse dans un décor de Révolution. On entre vraiment dans la Révolution. Et le tome 1 a 330 pages, le tome 2, le premier volume à 330 pages, c'est dense. Il y a eu plusieurs années, peut-être 2-3 ans entre les deux volumes, et je comprends, les auteurs vont travailler vraiment à deux. On ne peut pas dire qu'ils vont dessiner à quatre mains parce qu'on ne dessine pas à deux mains, hein. Mais ils vont travailler à deux le dessin et leur vie n'est que ça. Ils ne vivent que de ça, ils sont là-dedans, ils sont dans la recherche, ils sont dans le dessin, les esquisses, l'histoire, les dialogues, aller chercher des lettres à l'époque, essayer, c'est vraiment un travail de fou et on le sent dans la densité de ça. C'est pas une BD à lire dans l'autobus, là. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est assez...
Un peu comme la bombe pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la bombe atomique, avait fait un travail d'historicité, oui. Puis de documentaire qui dépasse la BD, en fait, qui devient pratiquement un ouvrage de référence à certains degrés.
Absolument, absolument. On revient à Victor Hugo là, en lisant cette BD-là. Là. Il y a quelque chose, c'est dense. Là. Et c'est dense au niveau du texte, et c'est dense au niveau de l'histoire, et c'est dense aussi au niveau du dessin. Ce qui fait que chaque dessin est un peu... On trouve même pas nos personnages principaux. Il va y avoir des foules extraordinaires. C'est quasiment toujours un cherche-éprouve. Là. La durée de lecture est allongée. Personne n'en finit plus de lire ça. Là.
Alors ça, c'est Révolution. Donc, le premier tome est disponible. C'est le deuxième tome, partie 1. Donc,
qui est disponible aussi. Égalité,
qui est disponible aussi en attendant la deuxième partie du deuxième tome. Et c'est à lire, évidemment, donc chez Actes Sud, donc de Groisel et Lecard. Et peut-être, un univers qu'on connaît bien ici à la Vie en BD. Je pense qu'on en a parlé pas mal, d'ailleurs, en club de lecture. Mais peut-être juste un mot sur le dernier tome. Est-ce qu'il en vaut la peine? Donc, tome 14 de Théodore Poussin, Haro Satoé de Franck Le Gall chez Dupuis. Tu nous le recommandes?
C'est drôle parce que je trouve que ton début, quand tu me demandais, quand j'ai commencé quelque part quasiment en même temps que Théodore Poussin. Là. Le premier Théodore Poussin, c'est en 1984, qui est paru chez Dupuis. Après ça, il a été mis en album. Et puis, on parlait de la difficulté de la bande dessinée tantôt. Il y a eu de la misère à se faire éditer le gars avec son Théodore Poussin. Là. Ils ont parti de maison. Dupuis ont essayé, voulait quelque chose de très conventionnel. Ils sont allés vers l'humoristique. Lui, avec son espèce de personnage, entre guillemets, normal, pirate à peu près normal, c'est un personnage normal qui vit des aventures, le bombarde, en fin de compte, c'est lui qui est bombardé d'aventures. Il y avait de la difficulté. On a pilonné ses albums dans les années 90 parce qu'on voulait repartir cette maison, ces éditions-là. Ça a pris 18 ans avant qu'il fasse son tome 13, je pense, ou 12. C'est l'enfer. Et pourtant, c'est une BD extraordinaire et cet album-là est encore une fois extraordinaire. Ce que j'aime de Théodore Poussin, c'est que d'album en album, le gars réussit toujours à se surpasser et à faire que son personnage se surpasse. C'est d'une écriture qui est littéraire. Il cherche tout le temps à faire de la littérature et faire de la littérature dans des bulles, il faut le faire. Et son dessin est magnifique. Il reste dans ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire un dessin conventionnel de la bande dessinée franco-belge des éditions Dupuis des années 80. Il reste dans cet esprit-là, mais il se permet quand même un peu de liberté, un petit peu moderne, mais c'est ça reste très classique. C'est une BD très classique et c'est une BD qui est, ma foi, magnifique, mais il faut relire tout pour le lire. Malheureusement.
Ça nous donne une excuse pour le relire tout, exactement.
Ah, oui.
Allons-y avec le Heureusement, c'est quand même excellent comme série, comme univers BD. Donc, Zone 14 de Théodore Poussin, donc Haro Sato, de Franck Le Gall. Stéphane Gravel, nous, on se dit à la prochaine fois, là, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, on est sur des mois à durée variable, donc on verra quand le prochain mois atterrira chez nous.
C'est super, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Alors, voilà ce qui complète l'édition de cette semaine. Alors, on se souhaite tous et toutes un bon 36e Festival Québec BD et on se revient la semaine prochaine avec donc un club de lecture. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente semaine.